Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ».
Nous revenons en 1871. En 1871, événement important. Guillaume de Prusse a été couronné empereur d'Allemagne le 18 janvier dans la galerie des glaces du château de Versailles. L'empereur Napoléon III a démissionné et un gouvernement s'est mis en place, mais vraiment ce gouvernement ne sait pas que faire, car les Prussiens, comme on dit ailleurs, alors, on ne dit pas encore les Allemands, ont envahi la France et le gouvernement français essaie de faire face, notamment en s'installant à Tours. À ce sujet-là, un membre du gouvernement, Léon Gambetta, quitte la capitale, Paris, en ballon, pour rejoindre Tours. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir toutes les images d'Épinal qui ont circulé à cette occasion-là. En réalité, Gambetta est bien parti en ballon de Paris, mais il est arrivé à Tours en train. 2 jours de train, parce que il n'a pas été capable de diriger le ballon dans lequel il avait vu place. Et 3 armées prussiennes entourent Paris. Et les combats continuent en France. Signalons pour mémoire que Chartres sera occupé, Châteaudun aussi. Et en réalité, l'armée française, ou plutôt ce qui en reste, accumule les retraites et les défaites. Jusqu'à ce que, en 1871, soit signée une convention d'armistice. Ce n'est pas encore l'armistice parce que les Prussiens et Bismarck connaissent toutes les ressources de la diplomatie. Les Prussiens n'ont aucune confiance dans ce gouvernement. Alors, on essaie de survivre. Signalons que les soldats français vont être aidés par un bataillon venu d'Italie, dirigé par un certain Garibaldi. Et le gouvernement reste impuissant. On en arrive à cette situation. Les troupes allemandes occupent 43 départements. Lors des élections, pour désigner ceux qui vont remplacer les dirigeants mis en place sous Napoléon III, les élections donnent un grand vainqueur, Adolphe Thiers, vainqueur dans 26 départements. Gambetta se contentera d'être vainqueur dans 10 départements. Et l'Assemblée nationale finit par être, disons, mise en place. Et la paix, finalement, est signée. La paix est signée, mais les Français ont perdu l'Alsace, et la Moselle qui reste allemand. D'ailleurs, cette paix qui est signée n'entraîne pas le retrait des troupes allemandes. Les derniers soldats allemands quitteront le territoire français en 1873. Il n'empêche que la Troisième République est proclamée, et ce qui est étonnant, c'est qu'elle va durer jusqu'en 1940. Après avoir supporté le conflit de 14-18, ce qui fait quand même, quand on réfléchit bien, une durée d'existence qui aurait de quoi faire rêver bien des gouvernements. Rappelons pour mémoire que notre 5e République, qui date de 1958, n'a pas encore atteint cette durée de longévité. Mais revenons un peu en arrière et en 1871 va éclater un phénomène dont on parle encore aujourd'hui avec parfois des hésitations, avec des contradictions, avec des invectives parfois. Le 28 mars 1871, deux mois après la convention d'armistice, non pas l'armistice, mais la convention d'armistice, est proclamée la Commune de Paris. Oh! Si on regarde bien, la Commune de Paris a duré en tout 72 jours. Elle est née de la révolte d'une partie des Parisiens. Et on a dit que la Commune de Paris avait été facilitée par les travaux effectués sous Napoléon III par Haussmann. Effectivement, certains quartiers ont été complètement transformés, sont devenus des lieux de villégiature, des lieux de, disons, réservés à une certaine classe. Et du coup, les ouvriers, les petits salariés, les petits commerçants se sont trouvés refoulés hors du centre de la ville. Et on a dit que cela avait fortement favorisé la naissance puis l'explosion de la Commune de Paris. Signalons au passage quand même que on en parle toujours de la Commune de Paris. Il y a eu des tentatives de communes qui n'ont pas duré longtemps, à Lyon, à Marseille, à Narbonne. Alors comment fonctionne la Commune de Paris, ce qui, je rappelle, n'a duré en tout que 72 jours. Il y a une assemblée communale, 79 membres, 9 commissions, et la commune prendra certaines mesures pour aider ceux qui ont le plus à souffrir de la situation de guerre. Alors, on va remettre certains loyers. On va échelonner les créances. On va proclamer la séparation de l'Église et de l'État. Et on va adopter le drapeau rouge. On peut signaler quand même une chose qui aura une certaine importance par la suite. Parmi les communards, il y a énormément de femmes. Oh, bien sûr, il y a la plus connue, Louise Michel, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup. Et elles parlent. Elles disent tout le mal qu'elles ont pour arriver à ce que leur famille survive, trouve de quoi manger. Rappelons pour mémoire que les animaux du zoo de Vincennes ont fait les frais de cette situation de famine, puisque plusieurs ont été transformés en plats de consommation pour les tables familiales. Et un épisode va marquer des esprits. Certains bâtiments sont détruits, mais un particulièrement. Le 16 mai 1871, les communards mettent à bas la colonne Vendôme. Signalons que on a beaucoup dit que le responsable en était le peintre Gustave Moreau. En réalité, il n'a pas été directement responsable. Bien sûr, il avait suggéré que la colonne Vendôme soit détruite pour qu'on récupère les matériaux. Mais Courbet, était quelqu'un de farouchement opposé à Napoléon III. En 1872, il avait refusé la Légion d'honneur, avec une lettre qui ne manque pas de panache. Mes opinions de citoyen s'opposent à ce que j'accepte une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d'honneur, mes principes la repoussent. L'honneur n'est ni dans un titre ni dans un ruban, il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même, de ses idées, en constitue la majeure part. Alors, après la défaite de la Commune, on va ouvrir une parenthèse. Courbet va être poursuivi, justement, pour avoir été à l'origine de la démolition de la colonne Vendôme. Et il va être condamné. Il va être condamné après, en 1873, condamné à 323 091 francs. Ses biens vont être saisis, ses avoirs et plusieurs de ses toiles. Ne pouvant faire face à une telle défense, il va se réfugier, notamment en Autriche. Il va mourir en 1877, et ce n'est que en 1919, que son corps sera rapatrié à Ornans, comme pour rejoindre une de ses toiles les plus célèbres, l'enterrement à Ornans. Je vous propose une pause musicale. Thank you.
Radio Grand Ciel, 106.8, à Chartres.
Mais revenons à la fin de la commune. Au cours de la semaine qui va du 21 au 28 mai 1871 et qu'on a appelé la semaine sanglante. Signalons que les Allemands avaient relâché 60 000 prisonniers qu'ils avaient faits pendant la guerre pour venir aider les soldats français à reprendre le pouvoir à Paris. Et les communards vont sombrer dans le désordre le plus absolu, par manque de coordination. Ou bien sûr, ils vont incendier au passage l'hôtel de ville, le palais d'Orsay. Mais cette semaine sanglante a marqué l'effondrement définitif de la commune. Pendant cette semaine, 10 000 communards ont trouvé la mort. Et Thiers sera désormais installé dans les mémoires comme le nabot sanglant. Comme disait Georges Clemenceau, le type même du bourgeois cruel et timoré qui s'enferme sans froideur dans le sang. Une fois que les communards vont être réduits au silence, commence la répression. Les tribunaux prononcent 93 condamnations à mort. En fait, seulement, enfin, si on peut dire, 23 de ces condamnations seront exécutées. Alors, on évoque toujours la mort des otages de la commune, notamment de l'archevêque de Paris. Bien que de nombreux historiens émettent des doutes sérieux sur la façon dont on a raconté cette exécution. Dans les condamnations, beaucoup sont condamnés aux travaux forcés, d'autres à la déportation. Et à partir de là, on peut dire que la commune entre dans la légende. Avec notamment un lieu devenu culte. Au Père-Lachaise, le mur des fédérés ou des communards a été fusillé. De nombreux partis de gauche vont faire de ce mur des fédérés un symbole, avec régulièrement, chaque année, une sorte de pèlerinage, si l'on peut dire, devant ce mur des fédérés, en mémoire des victimes de la répression des communards. Alors, ce que je trouve personnellement amusant, c'est que, suivant les périodes, pour prendre les deux partis principaux de l'opposition de gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste, les deux partis vont le faire séparément, ils vont se rendre séparément devant le mur des fédérés, mais parfois, lorsque cela peut correspondre à un désir provisoire, ils vont le faire en commun. Des gens comme Karl Marx ou Bakounine, l'anarchiste, vont porter les communards au pinacle en disant qu'ils sont des exemples. Signalons que en 1991, il n'y a pas si longtemps que ça, Pierre Mauroy, premier secrétaire du Parti communiste, fait inaugurer une plaque à la mémoire d'une barricade rue Fontaine, 17 rue Fontaine, dans le 19e arrondissement. Mais la commune a bel et bien disparu. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la mise en place de la Troisième République qui va durer 70 ans, ce qui est énorme. Sous la Cinquième République, nous en sommes encore à 64 ans, encore un petit effort, et la Cinquième République durera peut-être autant de temps que la Troisième. Mais une chose reste, c'est que même si la commune a été écrasée avec le soutien actif des Prussiens, enfin, je devrais dire des Allemands, puisque Guillaume Ier est désormais empereur d'Allemagne, avec le soutien actif de l'ennemi, disons, un milieu populaire a été réduit au silence. Mais ce qui n'a pas été réduit au silence, c'est des désirs toujours présents dans certaines classes populaires de ne pas accepter n'importe quoi sans révolte. Et peut-être est-ce hasardeux ce que je vais dire, mais je n'ai pu m'empêcher d'y penser lorsque la France a connu l'aventure de ce qu'on a appelé les Gilets jaunes. Dedans, enfin plutôt derrière cette révolte, derrière ce soulèvement pacifique, il y avait comme un petit air de nostalgie pour finalement des événements qui, même s'ils datent de 1871, c'est-à-dire de plus de 150 ans, sont peut-être restés quelque part dans la mémoire collective. À peine enfouis, mais dont on peut se demander s'ils ne sont pas prêts à ressurgir. Quoi qu'il en soit, cette guerre de 1870-1871 aura marqué profondément les esprits et laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Thank you.